1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard. Si vous nous rejoignez, il est 10h en effet, et pendant une heure, on va partager le plaisir des mots de l'orthographe, vous le disiez Julie. Alors hier, on a passé un moment délicieux à évoquer la poésie, cela vous aurait plu. Bonjour Jean-Joseph Julot. Mais aujourd'hui, il est question de dictée. On se penche sur une passion française, événement attendu samedi dans le cadre du Salon du Livre à Paris, la dictée pour les nuls. C'est un événement en général pris d'assaut, un texte qui sera lu par le chanteur Kali, et chacun d'entre vous peut y participer. Mais il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a un peu partout en France justement. Un plaisir de la dictée qui était peut-être une souffrance, au contraire pour les enfants que vous étiez, comment certains ont pu dépasser cela. Eh bien, venez témoigner, professeurs, lecteurs, participants, parce que vos témoignages vont nous éclairer, Julie.
Vous appelez le 3921, vous composez le numéro, mais c'est nous qui vous rappelons.
Et vous pouvez écrire hein, sur Twitter.
Bien sûr, avec le hashtag Europe 1.
Sans faute d'orthographe.
On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Non, sans faute d'orthographe, je dis ça, mais c'est vrai qu'on a parfois un traumatisme lié à la dictée. Jean-Joseph Julot, vous qui organisez cette dictée pour les nuls samedi au Salon du Livre à Paris, vous avez été professeur de français. Moi, je garde personnellement un très bon rapport avec la dictée, j'aimais ça. Mais il y en a qui ont été traumatisés, on ne peut pas le nier.
C'est vrai, parce que la dictée suppose quand même une connaissance de l'orthographe antérieure à l'exercice. Et cette connaissance ne peut être acquise que par la pratique de dictée qui elle-même, vous voyez, on remonte toujours à l'origine de l'apprentissage de l'orthographe. Il faut dire que si certains ont été traumatisés, c'est parce que la dictée a longtemps été une dictée sanction.
Oui. Et on traquait les fautes.
On traquait les fautes parce que c'était surtout une dictée évaluation. Et la dictée aujourd'hui s'est modernisée. Il y a des dizaines de sortes de dictées qui évitent justement ce traumatisme. Mais il faut remonter quand même. Il faut refaire l'histoire de la dictée. Vous savez que cette dictée est apparue au 19e siècle. Lorsque, en 1789, l'abbé Grégoire lance une grande enquête sur la connaissance de la langue française en France, eh bien, il s'aperçoit qu'un Français sur cinq maîtrise la langue française, la langue de Paris, et qu'il y a en France des milliers de patois, de dialectes, et que les gens de village en village ne se comprennent pas. Et donc, il dit qu'il faut unifier la nation avec une pratique de la langue commune à tous. De là vont naître les écoles. Il faut dire qu'elles existaient déjà. C'était les congrégations religieuses qui sélectionnaient de temps en temps un élément qu'ils jugeaient apte à poursuivre des études et le conduisaient souvent dans un monastère, un couvent ou dans la prêtrise, parce que c'est comme ça qu'ils se reproduisaient finalement.
D'accord.
Et donc, au milieu du 19e siècle, eh bien, lorsque la loi Guizot impose l'école obligatoire, on commence à faire des dictées. Et c'est en 1866, lors de l'institution du certificat d'études, du CEP, qu'apparaît vraiment la dictée. À quoi sert-elle? Elle sert à tester les capacités de logique de celui qui écrit. Elle sert à tester ses capacités de mémoire aussi. Elle sert aussi, et ça c'est inattendu, à tester sa capacité à bien former les lettres, l'écriture, vous savez, ce qu'on est en train de perdre avec les claviers, parce qu'on n'écrit plus à la main, la calligraphie se perd. Et donc à l'époque, il y a une note d'écriture aussi. Et toute cette histoire de la dictée va se poursuivre avec Jules Ferry.
Elle sert aussi, puisqu'on est à l'époque de la 13e République et des hussards noirs de la République aussi, à inculquer des valeurs. Il y a beaucoup
bien
de dictées citoyennes
sûr.
À ce moment-là.
Dans l'esprit de l'abbé Grégoire, c'est curieux, il disait, voilà, il faut que tout le monde sache lire et écrire pour pouvoir propager les nouvelles techniques agricoles qui viennent d'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on l'a oublié, mais le grand souci, c'était d'assurer sa subsistance pour le lendemain. Figurez-vous que lorsque le CEP, le certificat d'études, a été institué, eh bien, on pouvait le passer à partir de 11 ans. Vous aviez donc ce qu'on appelle aujourd'hui les grosses têtes, les caïdes qui étaient capables d'acquérir le savoir nécessaire à passer le certificat d'études à 11 ans. Eh bien, lorsqu'ils l'avaient, qu'en faisait-on ? On leur disait, voilà, tu peux quitter l'école. Au lieu de leur dire, tu peux poursuivre tes études parce que tu es très doué. À 11 ans, si quelqu'un avait son certificat d'études, il était très doué. Il quittait l'école et il allait à la charrue, au labour. Une magnifique scène dans La Mare au diable, Georges Sand, qui décrit une scène de labour avec 8 bœufs qui sont attelés à la charrue.
Voilà,
et
le,
ça, c'était extraordinaire.
Le terreau français de la dictée qui explique peut-être notre attachement à cet exercice. On va voir son évolution. On est passé de cette dictée couperet, d'ailleurs, qui était éliminatoire pour un certificat d'études, épreuve éliminatoire, à la dictée plaisir que vous organisez, par exemple, samedi. Et là, vous avez des centaines de participants qui se ruent sur le site de la dictée pour les nuls ou sur le site du Salon du Livre de Paris. C'est quand même incroyable d'en arriver là. Bon, vous n'allez pas les fouetter s'ils ont des mauvaises notes, mais c'est génial d'avoir créé du plaisir autour de la dictée, Jean-Joseph Joulot. Vous n'y êtes pas pour rien dans cette histoire.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Ça devient un jeu et non plus un enjeu. Chacun vient se mesurer à soi-même, se mesurer à telle ou telle règle d'orthographe. Alors évidemment, je farcis la dictée de règles diverses et de difficultés diverses.
Car c'est vous qui l'écrivez, on va y venir.
Oui, voilà. Oui. Ils se sont rencontrés, ils se sont plu, ils se sont nuis, ils se sont quittés. Alors voilà, je vois Julie qui est en train de prendre beaucoup de plaisir parce qu'elle adore l'accord des parties passées, mais ça, c'est un grand classique. Et il y en aura forcément. Et ce plaisir, eh bien oui, effectivement, ceux qui participent à la dictée viennent m'en parler après. Ils ont eu ce bonheur de se mesurer à un texte difficile. Cette année, il sera beaucoup plus facile d'ailleurs.
Ah bon? Et oui, vous le dites d'emblée?
Non, je le dis tous les ans.
Ah d'accord.
et donc,
pour tromper. Pour
et
tromper
donc, ils
l'ennemi.
Repartent avec un mot rare, oui. Avec un meilleur ajustement.
Ils ont
de
appris.
Certaines...
Oui, voilà, ils ont appris en s'amusant.
Ils ont révisé.
Alors, on va venir à cette dictée qui attend les participants au Salon du Livre à Paris avec vous, Jean-Joseph Julot, parce que c'est vous qui l'avez écrite. Vous nous direz peut-être ce qui vous a inspiré justement dans l'écriture, comment ça se passe, une dictée à plusieurs. Et puis, nous irons un petit peu partout en France où une série d'événements est organisée. C'est intéressant de voir que cette dictée a fait beaucoup, beaucoup d'émules. À tout de suite avec
vous. En tout cas, pour Paris, Europe 1 est partenaire. Alors, je signale que le Club Europe 1 invite 5 de ses membres au Salon du Livre de Paris, qui est le plus grand événement dédié au livre en France, afin de participer à la 10e édition de la Grande Dictée. Ça se passera ce samedi 16 mars.
Entre 12h et 13h. Hein.
Voilà, exactement. Alors, il vous suffit de vous inscrire sur la page du Club Europe 1, bien sûr, sur notre site. Et 5 membres seront sélectionnés parmi les inscrits. Ils recevront une place pour le salon afin de participer à cette
dictée. Ramenez des bonnes notes.
Et cette dictée est transmise et retransmise en direct sur la chaîne YouTube pour les nuls. On
génial.
Peut donc la faire sur la planète tout entière.
À tout de suite.
9h-11h. Wendy Bouchard sur Europe 1.
Pourquoi la dictée passionne-t-elle autant ? Nous sommes avec Jean-Joseph Julot, qui est ancien prof de français, organisateur de cette dictée pour les nuls samedi au Salon du Livre à Paris, auteur de toutes sortes d'ouvrages, dont le prochain, La petite anthologie de la poésie française, paraîtra la semaine prochaine aux éditions First.
Bah, il ne pouvait pas venir tous les jours, sinon vous auriez été là aussi, Jean-Joseph Julot, hier la poésie, avec l'ami Pierre Vavasseur. C'est une émission qui était formidable, que je vous recommande de réécouter pour une fois, je fais un peu de pub, en podcast sur europe1.fr. Alors, cette dictée, parlons-en. D'ailleurs, dans un instant, vous posera la question suivante, vous avez réagi sur Facebook si vous gardez un bon souvenir de la dictée. N'hésitez pas à nous le dire au 39-21. Comment ça va se passer samedi? Donc vous avez écrit ce texte qui vous est venu comment? Il y a un thème particulier, Jean-Joseph Julot?
Chaque fois que je donne une dictée pour les nuls, je la donne en fonction du lieu où elle est proposée
oui,
au candidat. Par exemple, lorsque la première édition a eu lieu, c'était en 1910. C'était en 2010 et j'ai parlé des inondations de 1910 à Paris.
D'accord.
En 2012, eh bien, je me suis rappelé qu'il y avait eu la bande à Bono qui faisait des siennes. Et j'ai mis en scène quelqu'un qui était tout près de ces fusillades. C'était Marcel Proust, qui habitait boulevard Haussmann. Et boulevard Haussmann, il y en a beaucoup qui habitaient boulevard Haussmann et qui ont fait la faute à Haussmann, qui m'ont dit « J'habite le boulevard Haussmann et j'ai oublié un N ». Voilà. Donc, il y a quand même des choses étonnantes aussi dans la mémorisation d'orthographe. Alors, pour les autres, pour Nancy, par exemple, quand je donne une dictée à Nancy, je donne toujours le mot Leczinski, parce que vous savez qu'il y a la place Stanislas, mais les Nancéiens ne savent pas écrire certains ne savent pas écrire Leczinski.
C'est quoi Leczinski?
C'est facile, Leszczynski. C'est très simple,
simple,
parce que vous faites une série de 3, L-E-S, Z-C-Z, avec un C de chaque côté, un Z, et Y-N, S-K-I. Et voilà, vous avez votre. Et une année, j'ai dit au Nancéien, je n'ai pas mis Leczinski, là, ça l'a fait ouf. Et j'avais mis Leczinska. Elle a fait ah, vous voyez, c'était la difficulté. On la regarderait quand même. Alors cette année,
Vous êtes méchant, Jean-Joseph.
Non, taquin.
Vous êtes vicieux.
Voilà, c'est différent, c'est taquin. Parce que chacun accepte la règle du jeu.
Bien sûr.
On sait bien qu'on va trouver des petites choses comme ça. Et cette année, il y a un thème qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'Europe.
Mm-hmm.
L'Europe est à l'honneur. L'Europe est
ce qui
nous préoccupe, oui. que nous devons conserver. Et j'ai écrit un texte dont je ne peux rien dire de plus.
Mais non, j'entends. C'est...
Oui. Est-ce qu'on met de haine à Robert Schumann?
Vite, vous pouvez vérifier un petit peu les grands codes comme sur le thème.
Et donc, voilà, vous vérifiez. Je ne sais pas si le mot est dans. Enfin, je le sais, mais vous voyez... Il faut réviser tout ce qui concerne l'Europe. Ça, c'est une petite information que je vous donne.
Ça vous prendra 3-4 décennies.
Voilà. Très bien.
En tout cas, vous avez livré cette dictée. C'est Kali, le chanteur Kali, qui va faire ce qu'on appelle la première lecture. C'est quoi la première lecture ?
Alors, la première lecture, je demande souvent une personnalité, un chanteur. Mmh. Il y a eu Daniel Salnav de l'Académie française, il y a eu Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, ces personnalités viennent effectuer une première lecture, c'est-à-dire cette lecture qui dure 2 minutes.
D'accord.
Première lecture expressive du texte.
Voilà. Ensuite, où là, on se dit, ça va être catastrophique parce qu'il y a tel mot que je ne sais pas écrire.
Déjà, vous voyez, dans l'assemblée, ceux qui froncent les sourcils, ceux qui sourient parce qu'ils se disent, ça y est, celui-là, je l'ai écrit, qui, dans la minute, change de visage.
Ouais.
Il y en a qui pâlissent, qui rougissent. Enfin, il n'y a pas de malaise. On n'a pas d'infirmier.
C'est du jeu, vous le rappelez.
C'est du jeu.
Donc, première lecture.
Ensuite, c'est moi qui dicte le texte parce que je l'ai fait pendant des années. Et
comme
vous savez que pour dicter
français,
un texte, il y a des techniques. Il faut regarder. Voilà. Il faut savoir couper les groupes de mots. Ensuite,
vous faites les liaisons ou pas ? Vous êtes sympa ou pas ?
Parce qu'on
a des profs qui faisaient les liaisons.
Mais c'est obligatoire. On doit faire
ils
les liaisons.
Ils s'en vantent au jardin.
Les moutons.
Voilà. À la Chirac. Non, mais ça nous aidait bien quand même.
Mais oui. Et donc, on fait cette lecture de sorte que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Ensuite, il y a une deuxième lecture.
Oui.
Enfin,
une troisième lecture.
On la relit. Voilà. Ouais. Et puis, chacun peut revoir sa copie pendant que, et je vais vous dire pourquoi, pendant que les experts, parce qu'on a 3 catégories, on a les juniors, les amateurs et les experts. Qui sont les experts ? Ce sont des gens qui viennent des 4 coins de la France, je n'allais pas déjà dire des 4 coins de l'Hexagone, celui qui... et qui sont des habitués. Ils font les dictées, ils repèrent d'ailleurs les dictées qu'ils jugent importantes ou qui sont bien dotées.
C'est vraiment leur loisir. Hein.
Ouais. Ils s'en vont à Nancy, ils s'en vont à Nice. Et on a même des candidats qui traversent la France entière pour venir faire la dictée pour les nuls. À Nancy, par exemple, il y a un superbe dôme, vous savez, c'est ces créations de verre qui sont magnifiques. C'est le premier lot, donc on vient de loin pour pouvoir tenter de le gagner. Alors ces experts-là, eh bien, on leur prépare ce qu'on a appelé la phrase torpille. Qu'est-ce que c'est
la phrase torpille?
C'est une phrase qui est chargée, vous savez, chargée d'explosifs, mais d'explosifs grammaticaux. Et orthographiques. Vous avez des mots très rares, vous avez des structures compliquées, et vous avez donc en 3 lignes une espèce de quintessence de tout
génial.
Ce que la langue française comporte de casse-figure.
De chausse-trappe.
Donc, de chausse-trappe, avec un P ou deux P selon...
Et avec des S partout, je ne sais plus.
Voilà. Oui. Donc, pas à chausse surtout, parce que
pas
c'est
chausse,
et donc, vous avez là les experts qui se mesurent à ces 3 ou 4 lignes et qui seront départagés. Donc nous avons 3 catégories, une petite...
C'est bien, toutes les catégories sont concernées.
Une partie pour amateurs et une partie pour les experts qui auront de toute façon fait, et nous allons ensuite la corriger.
Oui.
En face, face au salon du livre, nous avons une équipe de 20 à 30 correcteurs et nous travaillons pendant 2 heures d'arrache-pied.
Avec 100, 200 participants, tout dépend. Et puisque vous parliez de la province et de toutes les villes de France concernées, eh bien nous allons aller dans un instant en Haute-Saône, où nous attend une coordinatrice de la dictée du Rotary Club qui est organisée aussi ce samedi. Passion française, cette dictée un peu partout en France. N'hésitez pas à égrainer cette émission de petits moyens mnémotechniques pour ne plus faire de fautes sur les grands écueils.
Vous prononcez bien,
mnémotechnique.
Voilà, parce que c'est, on trouve ça
les gens disent mémo pour mémoire.
C'est le monde de Nemo et c'est mnémotechnique.
Ils confondent avec mémorandum.
Allez, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Retour à la dictée.
dictée. On parle de la dictée pour les nuls qui sera organisée samedi de midi à 13h en partenariat avec Europe 1 au Salon du Livre de Paris. Et l'auteur de cette dictée est avec nous, Jean-Joseph Julot.
Eh oui, il a rédigé un texte spécialement écrit et taillé aux petits oignons pour vous sur le thème de l'Europe. Mais des centaines d'événements du jour, ce samedi, vont réunir des milliers de Français aussi autour de la dictée. Un engouement, même quand on n'est pas expert en orthographe. Alors là, on a un petit tweet taquin de David Abiguer qui nous dit « Moi, j'ai un super souvenir de mes dictées. » D-I-C-T-E. Voilà, c'est pour le sourire. Jean-Seb Desmarais nous dit « La dictée était une torture, pour moi une catastrophe. Jusqu'au jour où un instituteur me fait faire des autodictées pendant les vacances avec les lettres de mon moulin. Résultat, j'ai toujours eu de bonnes notes en dictée par la suite. Mauvais souvenir pour Camille, mais un effort de mémoire et de concentration. » Voilà, il faut dépasser aussi ce qu'on a pu vivre avec la dictée pour trouver des plaisirs. Vous nous avez donné plein de petits trucs pendant la pause et on va en parler d'ailleurs, Jean-Joseph Julot. Mais vous savez bien, en tant que professeur de français, vous aviez des bons et des mauvais en dictée pour lesquels c'était une souffrance.
Oui, il y a toujours, on peut toujours s'améliorer, c'est très simple, il y a une recette, une seule. Lorsque, et je vais partir d'abord de la carte bancaire. Vous avez un code pour la carte bancaire. Est-ce que vous le connaissez par cœur?
Oui, heureusement.
Comment l'avez-vous retenu?
Avec des départements,
en le répétant. Répétant, toujours, et vous le connaissez par cœur. Pour un mot d'orthographe, c'est la même chose. Vous le répétez, vous l'écrivez, si possible, vous l'écrivez en le prononçant.
Si ça nous intéresse, Jean-Joseph, vous voyez, mon code de carte bancaire, j'en ai besoin, l'orthographe, c'est du plus. Moi, j'adore, mais il faut qu'on s'y intéresse quand même.
Il faut qu'on s'y intéresse, mais alors, lorsque vous rédigez soit un message d'amour, soit un message
évidemment,
pour...
Évidemment, on a envie de faire ça bien.
Évidemment, c'est l'orthographe, c'est la propreté du style aussi. Et donc, si vous envoyez un message avec 10 fautes à quelqu'un à qui vous voulez demander peut-être pour certains un emploi, ou bien... Voilà, c'est quand même... Aujourd'hui, on est passé à la culture de l'écrit. On écrit beaucoup.
Et on a un certain nombre de souffrances et de coachs en entreprise d'ailleurs qui viennent faire, comme notre ami Bernard Fripia, pas mal de formations pour remettre à jour un certain nombre d'adultes. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Toute une activité autour de cette journée du 19 mars. Bonjour Malika Grenier.
Bonjour Jean-Joseph, bonjour Wendy.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir en ligne, vous qui coordonnez ce samedi, le 16 mars, pas le 19, pardon, la dictée du Rotary Club de Luxeuil-les-Bains. Alors, on est du côté de la Haute-Saône avec vous. Les Rotary, d'ailleurs, qui s'intéressent tous en France à cet événement, pour quelles raisons et dans quel objectif?
Alors, effectivement, donc les Rotary s'intéressent effectivement à cet événement-là, puisque cette année... c'est la quatrième année que le Rotary organise la dictée nationale.
Oui.
Pour le club de Luxeuil, Lure et Ricourt. Donc nous, c'est notre troisième participation. On remporte un réel succès. C'est vrai que les gens, c'est ce que vous disiez à l'instant, viennent par plaisir en fait à cette dictée, viennent participer par plaisir et reviennent d'année en année. Donc on est vraiment ravis par rapport à ça. Bah, l'objectif, effectivement, donc, de la dictée du Rotary, c'est la lutte contre l'illettrisme. C'est de pouvoir, alors je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais de pouvoir donner la possibilité aux gens de se retrouver dans un moment de convivialité, de pouvoir tester leurs capacités et les fautes en orthographe.
Et trébucher pour mieux apprendre aussi de ces erreurs.
Tout à fait, parce que le caractère ludique, effectivement, ne gomme pas la rigueur de la démarche.
Bien sûr.
Il y a, sur le même principe que la dictée pour les nuls, on a un barème qui est établi et qui, comme dans l'ancien temps, permet de corriger les fautes d'usage et les fautes grammaticales. Donc, on a pareil une équipe dédiée de 10 enseignants qui sont dédiés exclusivement à la correction, tout à fait. Et je pense que cette rigueur-là, justement, a permis de contribuer beaucoup au succès en fait, de la dictée du Rotary de Luxeuil-le-Réricourt.
Et vous vous inscrivez aussi dans le cadre de la semaine de la francophonie qui commence ce week-end. Vous voulez réagir, Jean-Joseph Julot?
Non, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir réparti les fautes d'usage, les fautes grammaticales, les fautes. Enfin, nous, pour la dictée pour les nuls, qu'on enlève un point pour chaque différence avec le texte. Chacun fait, puisque on ne donne pas les copies ensuite, et chaque candidat est invité à prendre en photo sa propre copie, et avec le texte que je donne à la fin, il peut lui-même faire la correction, et je donne les explications aussi. Vous savez, en France, partout, dans le moindre petit village aujourd'hui, il y a au moins une dictée de données par mois.
Complètement.
Ou par
J'ai fait le tour sur Internet avec Charlotte Arrigoni pour travailler cette émission. C'est formidable. Oui. Et vous parliez de lutte contre l'illettrisme. Il y a toujours 7% de la population en France en situation d'illettrisme. Et alors, ça va de 18 à 65 ans. Hein. Vraiment, tous les âges sont concernés. Et donc, vous avez des fonds qui seront reversés grâce au Rotary Club à ces associations, en local d'abord, Malika Grenier.
Alors, à beauté du geste. Donc... Exactement. Donc, le sens véritable de notre action, effectivement, c'est la collecte de dons, donc au gré du satisfait de chacun, parce qu'au départ, cette dictée est totalement gratuite. Et la destination des fonds, c'est effectivement de verser à une association de lutte contre l'illettrisme, qui touche mais effectivement 9% de la population française, qui représente quand même plus de 3 millions de personnes.
Oui.
Et on souhaite être effectivement présent auprès de ces associations par l'intermédiaire des titulaires et des vacataires, bah, qui aident ceux qui vivent comme un mal honteux,
oui,
cette incapacité à lire une lettre ou à écrire un courrier. Et ainsi se coupe du monde et de la société.
Voilà, ça sert à ça aussi, l'aspect ludique de la dictée. On vous remercie, Malika Grenier, coordinatrice de cette dictée du Rotary Club de Luxeuil-les-Bains, de Lure et d'Héricourt en Haute-Saône, qui a lieu ce samedi 16 mars, comme dans tant de communes où agit le Rotary Club. Tout le monde a pu trébucher, puisque je reprends cette expression, et on apprend en tombant. Écoutez cet échange entre Jacques Chancel et Bernard Pivot, juste avant la pause. Nous sommes en 1985.
Comment ça s'écrit, Fuchsia ? F-U-S-C-H-I-A.
Pardon ?
F-U...
Non. Voulez-vous me redire ça, s'il vous plaît ? Fuchsia. Oui. Non, en face de moi.
Fuchsia. F-U-S-C-H-I-A.
Non.
Il n'y a pas de...
Non.
F-U-C-H-S-I-A.
C-H-S-I-A. Non, mais c'est terrible, voilà, vous inventez un championnat.
Mais non, c'est affreux. Mais non, mais c'est les fleurs. Je vous ai dit, je suis brouillé avec les fleurs.
Ah, c'est vrai.
Depuis
le
début, les fleurs, c'est terrible. Je
peux
les offrir...
Vous enverrez un bouquet de fuchsia.
Je peux les offrir, je ne peux pas les épeler.
Ah, il est costaud, le fuchsia, hein. Fuchsia.
C'est en fait un botaniste allemand du 15e siècle, et du 16e siècle. Et c'est un botaniste de Louis XIV, que Louis XIV a envoyé dans les îles, qui est revenu avec beaucoup, beaucoup de fleurs, et qui a donné le nom aux fleurs, et qui a, en hommage à ce Fuchs, puisque c'est...
Ah, Fuchs, ça vient de là, Fuchs.
Voilà, ce Fuchsia, il a nommé cette fleur, le Fuchsia.
Ah, voilà.
Chaque mot à une histoire. Et lorsqu'on s'intéresse à l'orthographe, il faut pousser la porte du mot. Et vous avez là une perspective historique. Il vous emmène partout. Il vous emmène en Allemagne peut-être, mais il vous emmène au bout du monde.
Voilà.
Vous trouvez les racines et au bout de l'histoire.
Cadeau
aussi.
De Monsieur Julot pour Bernard Pivot, 30 ans après. Merci à tout de suite pour parler de la dictée dans tous ses états jusqu'à 11h. Un petit peu de musique. Allez, Gainsbourg.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences.
Ah, Gainsbourg, en maître de dictée, il aurait été fabuleux. Jean-Joseph Julot est avec nous, qui organise la dictée pour les nuls, samedi entre 12 et 13 heures au Salon du Livre à Paris. Mais vous tapez sur Internet, vous regardez dans votre commune, forcément il y aura un événement ou à côté de chez vous organisé sur le sujet. C'est ça qui est beau, c'est justement cette émulation sur la dictée, dont on peut dire qu'elle reste... indémodable, finalement. Jean-Joseph Julot, elle s'est modernisée, vous l'avez rappelé d'ailleurs.
Elle s'est modernisée, elle est nécessaire, elle est pratique. Elle permet aussi de voir des vocabulaires adaptés à l'âge. Une dictée de CM2 ne sera pas une dictée de 3e. Moi, je pense à propos de la dictée, et j'aime bien le dire à chaque fois que la parole m'est donnée, et comme aujourd'hui, pourquoi ne pas continuer cet exercice en seconde, en première,
oui,
en terminale,
pourquoi ça s'arrête au collège,
et mettre au baccalauréat une épreuve, qu'elle soit facultative ou non, une épreuve d'orthographe. On éviterait ainsi l'écueil dont vous parliez tout à l'heure, enfin, ce n'est pas un écueil, mais enfin, le problème qui fait qu'on est obligé d'envoyer des coachs dans les entreprises.
Non, et pardon, pour c'est remettre... pas normal d'avoir voilà. 20 sur 20 voilà. à une copie truffée de fautes. C'est ce qui arrive aujourd'hui quand même.
Voilà. Donc si M. Blanquer, qui a très bonnes idées, en cherche une autre, pourquoi pas ajouter à l'épreuve du bac une épreuve d'orthographe et continuer surtout une leçon d'orthographe. L'orthographe, c'est une discipline à part. C'est une discipline à part entière.
Oui.
En seconde, en première et en terminale, c'est très important de continuer à en faire. Une demi-heure par semaine suffirait.
Et souvenez-vous, passion et la polémique provoquée lorsque Najat Vallaud-Belkacem en 2015 propose l'instauration d'une dictée quotidienne. Alors, les plus conservateurs
c'est
applaudissent.
C'est une très bonne idée.
Mais en fait, tout le monde devrait applaudir à ce sujet.
Oui, M. Blanquer a repris aussi, il a demandé. Et d'ailleurs, beaucoup d'instituteurs, moi, dans les salons du livre, j'en vois beaucoup qui me disent, mais nous faisons une dictée quotidienne.
Mmh. Isabelle vous rejoint exactement. Elle vient de nous écrire depuis Montmorency. J'ai fait mes études de droit à Reims et le doyen de la fac disait déjà en 76-79 qu'il y avait beaucoup trop de fautes dans les copies. On parle d'examen et de sélection pour les études en fac. Je pense que la meilleure sélection sera de faire une dictée et de ne laisser faire des études supérieures qu'aux personnes qui savent écrire le français. Bon, c'est peut-être un peu radical, ça vaut quand même dans votre sens. Catherine et Nadine sont avec nous au standard. On va essayer de les joindre, chers amis. Mais nous sommes en ligne avec Abdella Boudour. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre. Vous qui avez fondé la dictée pour tous et vous organisez des dictées géantes un petit peu partout en France. Vous avez une trentaine d'années, Abdella Boudour. Comment vous est venue cette idée ?
Nous, à la base, depuis au moins 10-15 ans, on distribue des fournitures scolaires avant la rentrée scolaire aux familles dans la précarité.
Oui.
Et des denrées alimentaires. Et on était interpellés souvent par des instituteurs des établissements scolaires primaires sur le quartier, au Val d'Argenteuil, dans le 95. Et ils nous disaient qu'ils n'avaient pas de contact avec certaines familles qui ne parlaient pas le français. Et des fois, le matin, ils étaient obligés de s'occuper des élèves pour leur faire leur toilette ou leur donner leur petit déjeuner.
Ah, évidemment, ouais.
Donc, on a décidé, lors d'une rentrée scolaire, d'une distribution de fournitures scolaires, d'organiser une grande dictée pour créer du lien entre les habitants et les différents professeurs. On a mis que 40 chaises. On s'est retrouvé à plus de 250 participants.
C'est génial.
Et vu la réussite de l'événement, on a pensé à organiser un championnat national avec une grande finale chaque année. Et là, en 2019, le 12 octobre, ça sera au Château de Versailles.
Le 12 octobre au Château de Versailles, c'est formidable. Et que vous ont dit les enfants, les jeunes qui ont participé à cet événement depuis 3 ans maintenant ?
Ben, les enfants, ce que j'aime dans leur comportement, c'est qu'il y a une remise en question. Mmh. C'est-à-dire, nous, dans nos dictées, c'est une ambiance détendue et on fait gagner un lot aux gagnants et tous les participants repartent avec un lot. Et à la fin, tous les enfants, que ce soit primaire, collégien, lycéen, même les familles, récupèrent leurs copies, se remettent en question sur leurs fautes. Et même, il y a même des parents, malheureusement, qui prennent conscience que de la faiblesse des difficultés de leur enfant lors de la dictée. Donc, il y a une remise en question. Bah, tu vas arrêter d'aller au foot, tu vas à la bibliothèque. Ils nous demandent plus de livres pour pouvoir les faire lire leurs enfants. Et même, on est en lien avec le projet Voltaire qui distribue même des manuels pour se perfectionner en orthographe, que ça soit des manuels ou même sur des programmes sur Internet.
C'est formidable. Quel est votre métier, Abdella Boudour ?
Moi, je suis animateur jeunesse.
Ouais, et ben, vous faites bien votre job, dis donc. Ouais.
Donc, je suis animateur jeunesse et j'arrive à vivre de ma passion avec ma municipalité et de l'autre côté, le week-end,
outils. Vous êtes à Argenteuil ?
À Argenteuil. Ouais. À Argenteuil. Mmh. Et avec... c'est-à-dire, le week-end, on arrive à organiser des championnats maintenant nationaux. C'est-à-dire, on donne les outils à toutes les structures, grâce aussi aux partenaires, aux habitants qui veulent valoriser leur quartier. Parce que ça va la dictée aujourd'hui. Certes, ça nous réunit. Ça réunit les différents milieux, les différents quartiers, les différentes générations.
Oui, c'est ça.
Ça crée de la communication.
Et vous prouvez, Abdella, que c'est pas un truc de vieux, comme on entend souvent. La dictée, c'est transgénérationnel et ça crée un échange entre chacun d'entre nous.
Tout à fait. On a réussi à démocratiser, populariser les classiques de la littérature dans les quartiers. Mmh. Mais aussi, c'est grâce au soutien de différentes personnalités, des grands journalistes ou des artistes qui viennent et qui font la lecture de la dictée. Après, ce qui est beau aussi, madame, c'est que lors des dictées, il y a une rencontre qui se fait entre générations, c'est-à-dire des personnes âgées, des retraités qui ont connu la guerre à l'époque en France. Mmh. Et qui partage ça et qui veut prendre le micro et donner l'importance de l'école que eux, malheureusement, comme c'est en période de guerre, ils n'ont pas pu continuer leurs études et qu'aujourd'hui, vous, toutes les nouvelles générations, vous avez l'accès gratuit à l'éducation nationale, vous pouvez lire et écrire.
Ouais, complètement. Et même, profitons.
Et même par rapport aux anciens, je veux dire, issus de l'immigration d'Afrique, bah, de leur dire que c'est que les grandes villes dans certains pays qu'on droit aux études supérieures, alors qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la fac gratuitement en France. Et c'est ça ce qui est beau, c'est aussi le témoignage des différentes générations et transmettre l'histoire.
Bah, on
et
vous après, en parlait bien. Il y a une liberté magnifique dont il faut profiter. Moi, Abdella Boudour, si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour lire la dictée chez vous, je suis preneuse, je le ferai avec plaisir.
Moi, franchement, je suis partant.
Écoutez, alors on garde vos coordonnées, vous les donnez à Charlotte et puis on organise ça. En tout cas, bravo.
Merci,
bravo
madame. Pour merci ce que vous faites. Merci beaucoup à vous et au monsieur
Jean-Joseph Julot. Voilà, la dictée pour les nuls qui sera samedi au Salon du Livre de son côté à Paris entre 12h et 13h. Merci Abdella Boudour, la dictée pour tous, voilà, dont vous avez si bien parlé. On fait une petite pause, je donnerai la parole ensuite à d'autres organisateurs férus d'orthographe, fêlés d'orthographe même, comme il se qualifie, Henri Le Guen, président de cette association, dans le Finistère. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
À propos de la dictée, on en vient au résultat de la question Facebook. Gardez-vous un bon souvenir de la dictée? Oui à 65%.
Ah, bah c'est pas mal.
Quelques petits témoignages. Carrément un bon souvenir, nous dit Françoise. Merci au maître et à la maîtresse de nous avoir appris à écrire correctement le français. Bricard nous dit, c'était une compétition à celui ou celle qui ferait zéro faute et nous avions des images, nous les collectionnions. Tout ça, ça fait de beaux souvenirs. Moi, je vote non, j'étais nullissime en orthographe. 5 fautes, 2 points par faute, ça faisait 0. Je crois que je devais avoir 0,5 de moyenne. Aujourd'hui, j'aime les mots, la poésie, la syntaxe, la sémantique. J'adore écrire des jolies formules et surtout le français. Signé Jean-Pierre. Et puis ce témoignage de Farida. Je trouvais injuste que pour 4 fautes, j'avais le même 0 que quelqu'un qui en faisait 4 par ligne.
Ouais, parce que deux points par faute, c'est beaucoup,
hein,
quand même,
comme sanction. Et ça, c'était dans les années 50, 30, 40, 50. Ça a été quand même une sélection impitoyable. Et c'est là que la dictée a acquis cette triste réputation. En 1860, c'était 10 fautes pour qui étaient. Enfin, quand on faisait 10 fautes, on était éliminé. Après, c'était 5. Et puis maintenant, eh bien, on en est arrivé quand même à une approche de l'orthographe beaucoup plus pédagogique aussi, beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive.
Oui, alors justement, vous qui organisait la dictée pour les nuls, qui avait écrit notamment chez First le français sans faute pour les nuls. On a un petit mot intéressant de Christophe, qui est au standard, mais dont je vous lis le message de Plében. Je pense qu'il faut arrêter de dire faute, mais erreur d'orthographe, et cela changerait tout pour les élèves.
Ah oui,
qu'en pense
François,
professeur de français?
Effectivement, le mot faute est culpabilisant. Le mot erreur, ça signifie, ça vient du verbe errer, on est allé dans le mauvais endroit.
On cherche et on
la
apprend.
Faute a quelque chose de lourd, on porte ça sur ses épaules, et puis vous savez, il y a un temps qui n'est pas si éloigné, où celui qui faisait la faute allait dans le coin avec le bonnet d'âne.
Oui.
Il y a des illustrations qui sont des images d'Épinal. Ça a disparu heureusement, parce que c'était une souffrance, effectivement. Mais maintenant, on en est sorti, heureusement, avec la pédagogie moderne.
Nadine est avec nous depuis la jolie ville de Hyères, dans le Var, au 39-21. Bonjour Nadine.
Bonjour Wendy.
Alors vous êtes férue d'orthographe, je crois.
C'est ça, voilà. Je l'ai été dès ma toute petite enfance. Je suis toujours aujourd'hui. Évidemment, je ne fais plus de concours ni de dictées, mais je lis énormément. Je m'intéresse à l'orthographe, à la formulation, à la diction. Enfin, j'aime énormément ça. Et comme je lis beaucoup, je maintiens ce niveau et cette chose que j'adore.
Dans ce vagabondage des mots, vous dites que vous ne faites plus de dictées parce que vous n'en avez pas l'occasion, mais on dédie cette émission en particulier à toutes les dictées géantes, plus ou moins massives, qui sont organisées en France. Vous pourriez, s'il y en a une organisée près de chez vous, tester le jeu?
Oui, pourquoi pas. À vrai dire, en écoutant l'émission, je me disais aussi pourquoi ne pas me mettre dans le bénévolat pour aller aider des personnes qui ont des soucis dans ce domaine et les aider.
Très bonne idée.
En même temps, c'est un plaisir.
Voilà. Vous avez beaucoup d'associations en local de lutte contre l'illettrisme ou pour l'alphabétisation. Vous pouvez passer par la mairie et c'est une très jolie démarche que la vôtre, Nadine. Voilà. Si on peut susciter ce genre de vocation, ça fait du bien. Jean-Joseph Julot, j'ai entre les mains la petite anthologie de la poésie française que vous publiez chez First et qui tient vraiment dans la poche. Ça, c'est super. Que tous les candidats auront en cadeau ceux qui participent à la grande dictée de samedi.
Chaque participant, qu'il se soit inscrit sur le site pour les nuls pour faire la dictée, parce qu'on peut s'inscrire là, on est sûr d'avoir une place.
Oui.
Mais comme on a entre 300 et 400 personnes, il vaut mieux s'inscrire, c'est plus prudent. Et chaque personne inscrite, eh bien, emporte plus de 200 poèmes.
C'est beau. Et il faut dire que les lauréats emporteront un grand sac de livres. On est au Salon du Livre et vous jouez sur le plaisir des mots jusqu'au bout.
Il est utile de prévoir une brouette, d'ailleurs. Il y a de livres à emporter.
Merci Jean-Joseph Jullet. Encore avec nous quelques instants pour participer à ce plaisir de la dictée. Est-ce que vous irez, vous, dans vos communes, justement ? Dites-le nous. En tout cas, content de savoir, Julie vous l'a dit, que 65% d'entre vous, consultation Facebook, gardent un bon souvenir de la dictée. C'est que vous serez de bons profs pour vos enfants, vos petits-enfants. A tout de suite.
Le tour de la question sur la dictée qui rebute certains mais qui en passionne tant d'autres. Wendy Bouchard.
Avec un très bel engouement pour ces dictées organisées un peu partout en France à partir de samedi dans le cadre aussi de la semaine de la francophonie. Vous dédiez une heure à cette dictée pour les nuls en tant qu'organisateur Jean-Joseph Jullot samedi, mais on ira dans un instant du côté du Finistère avec un concours d'orthographe. Juste un mot sur ces langages raccourcis qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Je pense à ces langages SMS qui d'ailleurs, ne nous prémunissent pas de fautes d'orthographe, au contraire. Mais quel rapport avez-vous à ça, à cette nouvelle écriture ?
Je considère toutes ces nouvelles écritures comme des inventions originales, atypiques, quelquefois étonnantes, mais qui, par rapport au français standard, eh bien, n'ont guère de rapport. C'est une langue à part entière. C'est un moyen de communication. Vous savez, tous les groupes ont créé quelquefois leur moyen de communication. Quand on était adolescent, on aimait bien déformer les mots, on aimait bien avoir ces petits trucs, ces petits gimmicks.
Son langage.
Et voilà. Et donc, le français standard, lui, demeure, et c'est ce que nous efforçons de maintenir, nous qui organisons des dictées, un français standard. Chacun fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas en dictature. Nous sommes dans une république, dans une démocratie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous avons le français standard. Nous le proposons à tous ceux qui le veulent.
Et essayez, en tout cas, de participer à ces dictées, par exemple, avec la lumière et le sourire de Jean-Joseph. Vous verrez que c'est quelque chose de très sympa à faire. Première lecture par Kali samedi, le chanteur Kali. Et puis ensuite, deuxième lecture et relecture. Vous connaissez tous à part cœur. Henri Le Guen, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous qui présidez une belle association qui s'appelle les Fêlés de l'orthographe et vous organisez le 23 mars prochain, pour vous, le 15e championnat du Finistère d'orthographe. Ce sera à Bourg-Blanc. C'est quelque chose, les Fêlés de l'orthographe. Donc, vous l'êtes depuis longtemps ?
Alors, oui, en effet, j'ai le plaisir de présider cette belle association, au doux nom de Fêlés de l'orthographe. Mmh. C'est une association qui a été créée depuis... plus de 23 ans,
oui.
Et qui comprend aujourd'hui 112 adhérents.
Très bien. Vous réunissez, en dehors de cet événement dont on va parler, vous réunissez chaque semaine avec quel type d'activité ?
Alors, les séances sont en effet hebdomadaires. Nous en avons une trentaine dans chaque année.
Oui.
Et donc, chaque séance comporte 2 heures. La première heure, était consacrée à des activités de langue française et de culture générale.
Oui.
Et la deuxième heure, à l'épreuve reine, qui est la dictée.
Ah, c'est ça. Oui. Et alors ça, c'est systématique, chaque vendredi, et voilà, ça fonctionne en deux temps. Quel texte choisissez-vous, en l'occurrence ? Très classique alors, ou vous
alors, nous avons parmi les textes que nous utilisons pour nos dictées, nous avons deux sortes de textes. Et il y a les textes que j'appellerais les textes d'annales, c'est-à-dire des textes qui ont déjà été donnés dans d'autres concours et créés par des amis. Et puis, il y a les textes que nous créons nous-mêmes. Nous en créons aussi beaucoup. Nous en créons particulièrement pour tous les concours, entre guillemets, que nous organisons et pour lesquels nous sommes sollicités.
Mmh. Est-ce que vous arrivez, Henri Le Guen, à intéresser aussi la jeune génération ? Tout à l'heure, on avait ce témoignage d'Abdelhadou Aboudour qui a créé la dictée pour tous dans les quartiers. Et ça fonctionne très bien, ça réunit chaque génération.
Oui, alors le championnat du Finistère réunit donc environ 500 personnes.
D'accord.
Et sur ces 500 personnes, il y a 300 adultes, un petit peu plus, et il y a environ 200 jeunes.
Ah, très bien.
C'est le concours où nous arrivons à en mobiliser le plus.
Mmh.
Nous avons pour cela contacté par différents moyens et par courrier notamment tous les établissements scolaires à partir du CMA du Finistère.
C'est très bien. Et pour créer une vraie fête de la langue française, finalement.
Voilà, c'est une fête de la langue française. Nous faisons tout, d'ailleurs, pour donner à cette manifestation un caractère festif.
Mmh.
Pendant les corrections, par exemple, il y a toujours un spectacle de danse, un concert, voyez, gratuit, bien sûr, offert à tous les participants.
Ouais, ça c'est formidable parce que des initiatives comme celle-ci, Jean-Joseph Julot, il y en a dans tout le pays. Il suffit de regarder un petit peu. On en a exposé 3-4 ce matin, mais on peut fouiller bien davantage.
Effectivement, Monsieur Le Guen, je vous salue et je me rappelle fort bien votre participation à la dictée de Vannes.
Ah,
c'était en 2012 et vous avez fini premier. Avec un nombre de fautes dérisoire. Un nombre d'erreurs, un nombre d'erreurs dérisoire. Voilà.
Bravo.
Non, mais je suis très, très heureux de vous entendre. Effectivement, et c'est là que, rappelez-vous, dans la dictée Veines et des veines de Vannes que j'avais écrite, j'avais mentionné terrible tremblement de terre qui, en 1286, avait détruit la ville de Vannes.
Et je me souviendrai de la fameuse séance de départage qui avait suivi la dictée.
Oui, effectivement.
La fameuse mort subite sur les genres des mots.
Oui, exactement. Ah, c'était, c'est-à-dire que là, on avait, pour départager les concurrents, on avait, avec Julien Soulier, qui est mon adjoint à la dictée, et bien, on avait décidé qu'il y avait, qu'on allait départager les concurrents, leur proposant des mots dont il fallait donner le genre.
Et voilà, monsieur Lemieux s'en
était. Par exemple, autoroute, par exemple, entracte, par exemple. Vous voyez, c'est ces mots dont on doute toujours du genre.
Moi, je doute toujours du genre de horaire. C'est
un horaire, effectivement.
Non, je ne sais pas. Je pose la question. Oui, j'ai toujours un problème. Un horaire. Ouais. Comme un astérisque.
Voilà. Oui, et tous ces mots-là, on les avait proposés, donc Monsieur Le Guen s'en était très bien tiré. Et bravo.
Je me souviens de la tesselle et du zélige.
Oui, vous avez de la mémoire. Bravo.
De la tesselle et du génie. Oui, je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Je ne suis pas encore fêlé en orthographe.
Ce sont ces petits mots que nous avions proposés à l'époque. Il y avait, vous savez, il y a aussi l'après-midi. Hein, cette éternelle question, est-ce qu'on dit un ou une après-midi? Eh bien, on dit les deux, tout simplement.
Les deux, oui.
Parce que on devrait dire un midi, un après, mais déjà Stendhal, je crois que c'est dans Le Rouge et le Noir, dit une après-midi, Balzac aussi. Les deux sont tolérés. Mais il y a d'autres mots pour lesquels le genre est absolument féminin ou masculin, comme une absinthe, comme un acabit, comme une alcôve, comme une algèbre, voilà, bref, comme un alvéole, enfin tous ces mots-là qui sont...
Tentacule, on dit un alvéole.
On dit un alvéole.
Oui, tout à l'heure, sur l'antenne, quelqu'un a dit une tentacule.
Et on dit un tentacule,
c'est vrai.
Je ne savais pas qu'on disait un alvéole.
Bravo, vous en serez plus nourri
cette émission.
Apprendre tous les genres, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de mots sur lesquels on doute.
Oui, mais c'est ça le plaisir de ces petits ateliers aussi que vous faites chaque vendredi soir, Henri Le Guen, dans le Finistère, vous. Voilà, vous apprenez chaque semaine.
C'est tout à fait, avec des sujets très variés.
Ouais. Est-ce que,
M. Le Guen, vous venez vous participer samedi à la dictée pour les nuls
À Paris.
Malheureusement, je ne pourrai pas être physiquement présent, mais je vais la faire sur YouTube.
Merci, c'est gentil. Sur la chaîne YouTube, les éditions.
Je vous promets que dès que je le pourrai, je participerai à cette dictée.
Merci Henri Le Guen. Et je redis votre concours d'orthographe, le 15e championnat du Finistère d'orthographe à Bourg-Blanc, ce sera le 23 mars prochain.
C'est ça.
Merci beaucoup Henri Le Guen. Il nous reste quelques secondes. Pour conclure, pour rappeler les modalités d'inscription pour cette grande dictée à Paris, Julie.
Oui, le Club Europe 1 invite 5 de ses membres au Salon du Livre de Paris pour participer à la grande dictée pour les nuls, donc dictée qui aura lieu samedi le 16 mars de midi à 13h. Pour vous inscrire, vous allez sur la page du Club Europe 1. 5 membres seront sélectionnés parmi les inscrits et recevront une place donc pour ce Salon du Livre de Paris pour participer à la dictée.
Vous la ferez aussi en ligne, Julie ?
Oui, en ligne.
Bon. All right. Et puis, je précise votre petite anthologie de la poésie française, cher Jean-Joseph, aux éditions First, qui sort dans quelques jours, que vous offrez à tous les participants. Et puis, le français sans faute pour les nuls, chez First. C'était un plaisir. C'était trop court, parce que vous étiez très nombreux, en plus, à vouloir participer, réagir sur ce thème de la dictée. Comme quoi, la passion est loin d'être éteinte.
C'est très bon
et
signe.
Et c'est tant mieux. Merci, Jean-Joseph.
Merci.
Merci à vous, chers amis, Jean-François Bussière, Charlotte Régani, Manuel Calma qui m'ont aidé à préparer cette émission. À vous ma chère Julie, je vous dis à demain.
À demain, c'était Wendy Bouchard.